Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 20. C'est Europe Midi. Et vous avez reconnu évidemment la musique du Grand Bleu, signée Éric Serra. On a tous les images de ce film en tête. Tout est dit dans le titre. Le Grand Bleu, le ciel, la mer, tout y est magnifique. Mais depuis 1988, date de la sortie du film, depuis 34 ans, rien ne va plus. La mer, les océans sont de plus en plus pollués. Ça remonte à avant 88, bien sûr, mais ça ne s'est pas arrangé depuis. Et à cause du réchauffement climatique, le niveau de l'eau monte. Et c'est le point de départ de votre livre, Raphaël De Andréis. Bonjour.
Bonjour Romain.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous venez d'écrire avec et de publier avec Bertil Scali un thriller écologique de science-fiction, on espère. Ça s'appelle Mer, M-E-R bien sûr. Ça se passe à Bordeaux en 2100. Bordeaux devenue une cité lacustre parce que l'eau est montée et Bordeaux est sous les eaux. Vous êtes d'accord, thriller écologique de science-fiction, tout est là en réalité. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est ce qui nous pend au nez?
Nous, ce qui nous intéresse beaucoup avec Bertil, on avait écrit R précédemment, qui est un sujet un peu connexe, mais avec Mer, c'est de s'appuyer sur des projections scientifiques et puis ensuite de tirer le fil en disant, voilà, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens qui liront ce livre verront au début une carte qui montre les projections de montée des eaux de manière absolument scientifique et indiscutable. Et on voit bien que la région de Bordeaux, comme beaucoup de régions littorales dans le monde, se retrouve aux premières loges. Donc, science-fiction, oui, si on agit fortement, lourdement, et sinon, non. Et sinon, tout simplement, projection vers le futur. Donc, c'est une vraie bonne question.
Un roman d'anticipation. Effectivement, cette carte est inquiétante, extrêmement parlante. La Bretagne redevient une île. La mer monte jusqu'à la Roche-sur-Yon, jusqu'au Mans. Bordeaux est donc sous les eaux. Bayonne est au bord de l'eau. La Rochelle, rayée de la carte. Bon, je vous laisserai découvrir. Pourquoi avoir choisi ce thème de la montée des eaux?
Nous, ce qui nous passionne avec Bertil, quand on écrit nos romans, c'est de faire des sujets, des thrillers écologiques. C'est-à-dire, en gros, d'écrire des histoires qu'on espère très prenantes, très distrayantes, mais qui laissent un arrière-goût un petit peu amer, on l'espère en tout cas, sur les enjeux écologiques. Et donc, le premier était sur l'avènement d'une dictature écologique, R, et celui-là est sur un autre phénomène qui est la montée des eaux, le réchauffement climatique, qui crée au fond deux phénomènes. À un bout de la planète, des feux de forêt, des feux incroyables, puisque c'est le point de départ de notre livre. L'Australie qui brûle, qui jette sur les routes de l'exil des Australiens riches, et qui tout d'un coup, vous avez beau être riche, quand ça brûle, qui se jettent, qui partent d'ailleurs avec ironie un peu dans une espèce de grand voilier de yacht et qui échouent, si je puis dire, à Bordeaux, qui est une cité qui ressemble plus à Venise et dans laquelle, au fond, ces pauvres gens vont disparaître les uns après les autres, ce qui fera le début de l'enquête. Et donc, on essaye de tirer les gens avec un fil d'enquête, de rebondissement, j'espère très haletant. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Et en même temps, tout ça est sur un fond de décor qui montre qu'on ne peut pas séparer l'humanisme et l'écologie.
Ce qui est fou, c'est qu'on s'aperçoit dès les premières pages de votre livre que les conséquences de cette montée des eaux sont innombrables. Géographiques, bon, bien sûr, on vient de le voir avec la carte, mais aussi économiques, politiques aussi.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez finalement l'humanité dans une espèce de mode de survie, plus rien ne tient. C'est le chacun pour soi, les puissants arrivent à se débrouiller un peu mieux. En exploitant les autres, vous vous retrouvez aussi avec des gens qui étaient plutôt du bon côté, je dirais, du monde, si j'ose dire. On prend l'exemple d'Australiens, là encore, des gens avec des belles maisons, des belles voitures, des machins. Quand ça brûle, ça brûle. Donc vous avez une espèce de choc très violent qui permet aussi au lecteur de se dire, le migrateur, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre livre, ça pourrait être moi.
Mais ce ne sont pas des migrants, hein.
On les a appelés les migrateurs parce que, voilà, pour décaler un tout petit peu le sujet, ça pourrait être moi. Et effectivement, quand le monde est submergé, plus rien ne tient. D'ailleurs, les gens se re-régionalisent. Bordeaux est quasiment un district indépendant. La corruption est au sommet parce qu'il n'y a plus assez à manger, plus assez d'espace pour vivre. Voilà, parce que les rendements autrefois du vin, en l'occurrence, ça se passe aussi dans le milieu viticole, ne sont plus les mêmes parce qu'il y a de l'eau salée dans la terre. Et finalement, le pire de l'humanité refait surface quand le reste est submergé.
Beaucoup d'appels au 39-21. On va commencer avec vous, Patricia. Vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Bonjour, Patricia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vouliez témoigner dans Europe Midi sur ce sujet de l'océan, du réchauffement climatique, de la montée des eaux. Et vous dites, selon moi, les déchets sont à l'origine de tout.
Ben oui, c'est une grande chaîne. Et je pense que le démarrage de la chaîne, ce sont les déchets. Il faut savoir que les océans captent beaucoup plus de CO2 que les arbres, que beaucoup de personnes ne savent pas, mais je pense que vos intervenants seront d'accord avec moi.
Oui,
ensuite,
tout à fait.
Plus de la moitié des filets dérivants sont en plastique, en plus des déchets de chacun. Donc ça, tous ces plastiques se retrouvant dans l'océan, la faune et la flore en pâtissent, les animaux mangent ces plastiques, et à un moment où on va détruire la faune et la flore, on aura un énorme problème de CO2, et de là, toute l'escalade, les océans qui vont évidemment se déverser dans les villes. Pourquoi ? Parce que les banquises vont fondre, etc., etc. Mais au démarrage, c'est effectivement les déchets.
Au démarrage, les déchets. Vous sentez concerné ou pas quand vous entendez Raphaël De Andréis qui a écrit le livre Mère, qui dit c'est pas uniquement au bout du monde pour des pays pauvres, c'est pour tout le monde.
Pas du tout. Ça nous
est tous égaux face à cette crise.
Et là où on va être beaucoup plus concerné, c'est que toutes ces îles qui vont disparaître, où vont aller ces personnes, où vont aller toutes ces populations, elles viendront chez nous.
Ah bah oui.
Et je ne sais pas comment on pourra gérer tout ça. Donc on est directement concerné par ce problème. Je remercie Raphaël d'avoir écrit ce livre. Je lui achèterai d'ailleurs parce que je vais le lire.
Merci madame.
Je vous en prie. Et je voudrais que les personnes réalisent vraiment que plus que les arbres, les océans captent le CO2. Et c'est très, très, très important parce que si on détruit les océans, ça va être vraiment une catastrophe planétaire.
Merci beaucoup. Merci, Patricia, d'avoir témoigné. Beaucoup d'appels au 39-21. Vous continuez à témoigner. On en parle de ce réchauffement climatique. Tiens, la température moyenne des océans en 2020, 14,4 degrés. Elle était de 13,8 il y a 20 ans. Ça monte, ça monte, ça monte. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi. Romain des Arbres.
Ma mère, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets. D'argent.
Charles Trenet, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. On connaît tous ces paroles, évidemment. Aujourd'hui, un chanteur réaliste ajouterait des reflets d'argent et des reflets de plastique. La mer et les océans, on en parle aujourd'hui sur Europe 1 en cette journée mondiale de l'océan organisée par les Nations Unies. On est avec vous au 39-21 et avec vous, Raphaël De Andréis, auteur avec Bertil Scali d'un thriller écologique d'anticipation de science-fiction, MER, M-E-R, qui se passe à Bordeaux en 2100. On va aller à Bordeaux dans un instant. Il y a Frédéric qui nous a appelé d'Arcachon. Il y a plusieurs chiffres, Raphaël De Andréis, qui m'ont frappé en préparant cette émission. Il y a notamment celui-ci. 11 millions de tonnes de plastique sont chaque année rejetées dans la mer. 11 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans la mer. Vous qui, en plus d'être écrivain, êtes au comité exécutif d'Avas, président d'Avas Europe du Sud, bref, un grand dirigeant d'un groupe de communication. Quand on communique aujourd'hui, quand une marque communique aujourd'hui, comment vous prenez en compte ces problématiques ?
Mais d'abord, moi, ce qui me marque, c'est relativement récent. On ne va pas faire de langue de bois, c'est la sincérité des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de même qu'il y a eu la transformation digitale qui est encore à l'œuvre, mais qui, depuis 10 ans, structure toutes les transformations des entreprises, aujourd'hui, la transformation écologique, notamment, pas sociale aussi, mais écologique notamment, est absolument centrale. Donc ça veut dire que les entreprises... C'est pas qu'un sujet de communication, c'est surtout pas qu'un sujet de communication, c'est un sujet de transformation de leur modèle. on parle des mots barbares comme le nearshoring. C'est quoi le nearshoring ? C'est je vais avoir plus. Ça s'oppose au offshoring, qui est aussi un autre mot barbare en management, qui dit en gros, je faisais faire très loin fabriquer mes produits et je les faisais venir. Et ensuite, avec ce que ça comporte parfois de dépenses de CO2, et je faisais ça moins cher, quitte à avoir plein de stocks, quitte à détruire plein de trucs. Et aujourd'hui, entre les enjeux de réactivité du stock, entre les enjeux de CO2 et le fait qu'on n'ait quasiment plus le droit de détruire l'excès de production, on voit bien que typiquement, voilà un exemple très concret d'entreprises qui veulent fabriquer plus près pour pouvoir moins détruire et avoir moins de dépenses de CO2 dans le transport. Voilà un exemple, il y en a plein d'autres, mais ce qui me marque, c'est la sincérité des chefs d'entreprise, ou en tout cas le pragmatisme. À défaut d'être sincères, les entreprises savent que si elles ne vont pas dans cette direction de manière très massive, elles perdront leurs collaborateurs, leurs clients. Et aujourd'hui, on voit bien même les investisseurs financiers qui demandent, on l'a vu récemment dans l'actualité, aux entreprises d'avoir un plan de transformation écologique extrêmement vigoureux et concret.
C'est stratégique pour les entreprises aujourd'hui. Par exemple, tiens, on parlait du plastique. Le plastique, ça a tendance à disparaître ?
Alors, le plastique aujourd'hui, moi, je vois en tout cas dans la grande distribution, c'est alors sûrement pas assez vite, mais c'est obsessionnel dans la grande distribution en France et en Europe, c'est obsessionnel de réduire les emballages plastiques. Donc, quand vous avez des boîtes, je vois des boîtes que je ne vais pas les citer parce que voilà, chacun son histoire, mais moi, je vois au quotidien des clients qui sont vraiment très, très à la manœuvre. Et quand des géants comme Carrefour, comme Auchan, comme Leclerc décident d'y aller, l'impact est fort. Donc c'est important et c'est en mouvement.
Et c'est en mouvement. Pour, notamment chez les jeunes, c'est plus négociable. C'est-à-dire que ça, c'est l'opinion publique, l'opinion des jeunes est faite.
Les jeunes, en fait, sont complètement sidérés de voir que, on l'a vu récemment avec des ingénieurs, on l'a vu avec cette jeune fille qui s'est enchaînée au filet à Roland-Garros, qui sont des jeunes plutôt, c'est pas les seuls, ils ont pas le monopole de ça, mais des jeunes très éduqués, des jeunes qui sont plutôt appelés sur le papier à prendre la relève, à avoir des postes à responsabilité, et qui sont absolument en sidération, en désaccord, en lutte presque violente contre la génération d'avant, la nôtre, qui aujourd'hui, face aux équations, ne va pas assez vite. Donc c'est objectif. Donc comme je pense que moi, je ne rencontre plus de dirigeants qui doutent. Et donc le sujet maintenant, c'est la vitesse à laquelle on fait tout ça.
On parle souvent de politique hein, dans Europe Midi, et c'est de la politique, bien sûr. Hein, c'est même l'un des premiers sujets, évidemment. Question d'un confrère de Paris Match au sujet de votre livre. Et c'est dans le document de presse quoi, que j'ai lu ça, et je trouvais ça intéressant. Faut-il en arriver au fascisme pour sauver la Terre ? Est-ce qu'il faut imposer des mesures pour sauver la Terre ? Parce qu'on a peur, hein, très honnêtement, quand on lit votre livre. On a peur, l'eau monte, tout est remis en question. C'est pas un roman joyeux, c'est un roman qui vous prend aux tripes. Hein. C'est un page-turner,
ça donne envie.
Il y a quelques notes d'espoir.
C'est une question qui est très intéressante. C'est la première fois, si vous voulez, que vous avez potentiellement un courant politique, on va dire l'écologie, qui n'est pas assise sur de l'idéologie, mais qui est assise sur des équations. C'est-à-dire qu'en gros, le réchauffement climatique, la pollution, tous ces trucs-là, c'est des scientifiques, c'est des gens Covici, c'est des polytechniciens. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens articulés et scientifiquement équipés nous décrivent les choses. Et donc, ce qui était intéressant, c'est dans le précédent, dans R, c'est de dire, mais face à ça, face à cette équation, comment se fait-il que l'écologie soit partisane ? Et donc, on a émis l'hypothèse, pour un peu faire bouger les lignes, que puisque l'écologie est prisonnière de... Alors que tout le monde est d'accord, tout le monde aime la nature, de gauche, de droite, du milieu, les grands, les jeunes et tout, on va par l'absurde, j'espère, on a mis en place, dans le premier livre qui est R, une dictature écologique. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est affreux pour les libertés, c'est horrible, mais ça marche. Et donc... on met un peu tout le monde dans cette espèce de contradiction qu'on a tous en nous, on a tous, on a une partie de nous qui sait que ça ne peut plus continuer, on a une partie de nous qui aimerait bien refaire un tour de manège. Et voilà, et ça, les jeunes, eux, ils sont plus vigoureux. Donc nous, ce qui nous intéresse avec Bertil, mon co-auteur, c'est vraiment d'écrire des histoires, de la fiction, avec des personnages, avec des dilemmes, avec des enquêtes et tout, et en même temps, de mettre dans la tête de chacun de nous de faire en sorte que tout le monde soit mis en mouvement. Tous les gens qui ont lu nos deux bouquins, enfin l'un ou l'autre, nous disent « Ah, je dois dire qu'après, je me suis mis à recycler. Après, j'ai vu les choses un peu différemment. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas idéologique, c'est émotionnel et scientifique. Et c'est ça qui est intéressant dans la fiction, c'est que ça fait bouger les lignes. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas politicien. En revanche, j'espère qu'avec ce livre, ceux qui ont, le premier a très bien marché, celui-là semble bien démarrer, fait bouger les lignes et peut mettre d'accord quelqu'un qui est mélenchoniste et quelqu'un qui est à l'autre bout du spectre ou quelqu'un qui est LREM ou ce que vous voulez, quelqu'un qui est LR et qui, à un moment donné, se dit à la fin, on se baigne tous dans la même mer, on respire tous le même air.
C'est pas le sujet, la politique politicienne, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la sauvegarde de la planète, la sauvegarde de l'humanité, accessoirement. Frédéric, vous nous appelez d'Arcachon. Oui. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de me prendre l'antenne.
Ah bah merci à vous d'avoir appelé le 3921. Vous savez que le livre se passe à Bordeaux, hein ?
Oui.
Hein ? Bon, et vous voyez dans le bassin d'Arcachon.
Et Arcachon.
Oui.
Et Arcachon.
Oui.
Vous dites que dans le bassin d'Arcachon, la faune et la flore ont totalement été détruites.
Oh, totalement, on ne peut pas les... Bon, mais elle a été bien entamée parce que, si vous voulez, excusez-moi l'expression, mais moi bon, j'ai connu, bon, j'ai maintenant, je suis d'un certain âge, j'ai connu ma jeunesse, bon, j'ai connu, bon, le symbole du bassin, c'était l'hippocampe. Alors l'hippocampe, il en reste, mais vous savez, dans un coin, ils sont très protégés dans le bassin. Il y a eu une si vous voulez, même toute la faune à marée basse, il y avait des Bernard l'ermite, il n'y en a plus, il y avait... Enfin bon, si vous voulez, c'est devenu aseptisé. Alors, il y a les huîtres, mais les huîtres, c'est pareil, maintenant, on est dans les triploïdes, beaucoup. Alors, on ne sait pas, là, d'ailleurs, quel avenir ça va donner, cette histoire-là. Mais, je vous dis, il y a une désagrégation. Alors, le bassin est enfermé, donc, est bien sûr, très, très fragile, beaucoup plus fragile, d'ailleurs, que l'océan encore, mais l'océan, c'est pareil. Si vous voulez, vous avez l'océan est devenu vraiment une véritable décharge, si vous voulez, de tout le monde. Et ce que je crains beaucoup au milieu de tout ça, c'est surtout cette pollution qu'on ne voit pas, c'est-à-dire cette pollution, les déchets radioactifs qui sont balancés dans des containers de ciment, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est le début de la chaîne alimentaire. Vous savez, je suis vraiment très pessimiste, honnêtement, très pessimiste, parce que il y a une surexploitation aussi du poisson pour eux. Des questions, bien sûr, de nourriture humaine et tout ça. On est dans un cercle infernal et je pense que ça finira très mal. Hein.
Vous dites il y a un vrai manque de civisme de la part des gens. Oui. Mais c'est un peu ce que décrit Raphaël Deandréis, non ?
Oui.
C'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde a envie de faire quelque chose et à la fois, je vais reprendre l'expression parce qu'elle m'amuse et elle est très parlante, tout le monde a envie de refaire un tour de manège. En clair, on a tous envie d'aller passer un week-end à Barcelone avec un billet d'avion à 30 euros et à se dire, c'est pas terrible.
Voilà. Et là, avec l'époque des vacances du tourisme, bon alors là, c'est bon. Vous avez des zones qui ne devraient pas être navigables, tous les mois avec des bateaux à moteur, laisser la voile. Ça devient, bon, si vous voulez, c'est malheureux. Alors, bien sûr, on a des grandes idées, on est tous... vous savez, c'est comme l'écologie, bon, on dit l'écologie politique, ben non, l'écologie, elle n'est pas politique, c'est transverse à tout le monde, c'est notre survie, et il faut de l'écologie, mais raisonner, et on est plein de bonnes idées, on a un petit coup de Greenpeace de temps en temps, comme je dis, machin, mais non, puis après, on retombe dans les mêmes errements, et bon, je pense qu'un jour, on le paiera très cher.
Une petite source d'espoir, Raphaël Deandréis nous disait que les très grands patrons ont totalement changé leur point de vue sur l'écologie, sur ce qu'il faut faire. C'est plus du tout un gadget, c'est terminé ça. Maintenant, c'est une vraie prise de conscience. On va continuer évidemment à en parler, on fait une petite pause pub et on se retrouve à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.
Voilà, troisième chanson en rapport avec la mer. Il y en a plein d'autres, évidemment, ce sont des choix totalement subjectifs. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà, une phrase de Joseph Kessel. soufflée par Dominique Lavanant à Renaud, qu'il a reprise dans sa célèbre chanson « Dès que le vent soufflera », chanson dédiée aux amoureux de la mer. On en parle aujourd'hui de la mer. Dédiée aux amoureux de la mer et aux marins pêcheurs qui en vivent. Hein. 17% des animaux marins pourraient disparaître d'ici 2100 si les émissions de CO2 gardent leur niveau actuel. 17% des animaux marins qui pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. On en parle parce que c'est aujourd'hui la journée internationale, journée mondiale de l'océan organisée par les Nations Unies. On en parle avec vous au 39-21. Comme tous les jours, vous avez la parole, vous appelez et vous témoignez. Et on est aujourd'hui avec Raphaël De Andréis, qui est auteur avec Bertil Scali d'un thriller écologique, Mer, M-E-R, voilà, qui se passe à Bordeaux, en Gironde, en 2100, avec l'eau à cause du réchauffement climatique qui est montée jusqu'à Bordeaux. Bordeaux qui est devenue une ville quasiment invivable, hein, Raphaël De Andréis. Hein.
Oui, c'est devenu une espèce...
On s'y déplace en bateau. Hein.
On s'y déplace en bateau, en hydroglisseur. Il ouais. y a des plateformes sur lesquelles s'entassent des migrateurs pour partie venus d'Australie.
Des migrateurs qui sont, alors je traduis enfin, dans votre livre,
des migrants. Oui, pardon, voilà. On les appelle migrateurs.
Vous l'appelez, pour de des hommes. Hein.
Des hommes et des femmes venant pour la plupart de pays riches, étant plutôt des occidentaux. Et certains d'entre eux, et en particulier une jeune fille, disparaît parce que dans ce monde submergé, au fond, il n'y a plus d'éthique, plus de morale, chacun se bat comme il peut. Et que, évidemment, les pires instincts de l'humanité... submerge sont les seuls à être capables de survivre dans ce contexte. Une jeune fille de 20 ans disparaît et un couple de flics un peu mal assorti, une jeune lieutenante elle-même historiquement issue de migration mais bien avant africaine et un vieux briscard de quasiment à la retraite. On se dit que ce couple de flics ne fera pas de remous. Et ne sera pas capable de dénouer cette affaire de disparition de migrateurs. Mais ce couple mal assorti, finalement, est très déterminé, très humain, au fond, dans ce monde qui l'est quasiment plus, et va mener l'enquête et va remuer tout ce qu'il y aura à remuer. Et ce n'est pas joli.
Et ce n'est pas joli, voilà. Et vous, c'est un roman, mais... comme une alerte hein, à tout le monde. On en parlait juste avant la petite pause, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, de partout, ça s'adresse à tout le monde. Alors, il y avait la petite chanson de Renaud, là, adresse aux marins pêcheurs. La mer est encore nourricière dans votre livre, en 2100. Je pose la question, est-ce qu'il y a encore des poissons ? Parce que... il y a le menu de la cantine au commissariat. Qu'est-ce qu'on y mange ? Un mélange d'oignons frits, de pommes de terre bouillies et de soupe de méduse. L'invariable plat du jour maison, c'est méduse tous les jours. C'est pas souriant. C'est...
Bah, oui, enfin, on sait d'abord qu'avec le réchauffement des eaux, c'est vrai. Enfin, on essaie toujours d'avoir un fond réaliste. Donc, oui. Avec le réchauffement des eaux, vous avez des méduses. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une invasion de méduses. Donc, ça devient... comme c'est d'ailleurs dans certains cas, notamment en Asie, c'est des soupes de méduses, ça existe, donc les gens oui. les mangent. Autre chose que vous n'avez pas citée, mais il y a beaucoup de requins qui envahissent le bassin d'Arcachon.
Et des alligators.
Et des alligators. Donc on mange, il y a des barbecues de requins, et il y a malheureusement de temps en temps des enfants qui se font dévorer par des alligators parce qu'ils s'approchent trop du bord. Donc on essaye aussi de rendre... de rendre imagé ce que c'est que des eaux qui se réchauffent.
Ouais, ouais.
Et concrètement, ce serait ça.
Et dans votre livre également, tous ceux dont on parle aujourd'hui pour se protéger de la montée des eaux, et je pense notamment aux digues, se s'avère être totalement inefficace. On en a la preuve. C'est vraiment un sparadrap sur une jambe de bois, une digue, en réalité.
C'est un peu, je dirais, l'homme est présomptueux, l'homme croit toujours qu'il va trouver la solution. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne trouvera pas des solutions. On pense que, c'est sûr que les solutions technologiques seront une partie de la réponse. Mais si on pense qu'il suffit d'être bon en maths pour empêcher la nature de se rebeller, on se trompe. Donc il faut être bon en maths parce qu'il y a plein de solutions, de la captation carbone, des tas de protections. Mais ça ne suffira pas. Il faut drastiquement baisser notre CO2. D'ailleurs, on parlait de l'aérien tout à l'heure. L'aérien est dans un mouvement de transformation phénoménal. Donc, est-ce que ça ira assez vite ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'aérien qui a bien compris l'enjeu. Le numérique aussi, on parle beaucoup du numérique, mais le numérique est un sujet. Donc on voit bien qu'on doit tous...
Parce que ça émet du CO2.
Oui, oui. Alors après, il y a aujourd'hui le Green Code qui est en train d'arriver, il y a plein de choses. Il y a des gens, on peut regarder la télé en basse définition, le streaming, ça se passe très bien. Il y a des gens très... Canal, par exemple, a une option Green Def dans MyCanal. Donc c'est très possible de faire tout ça. Simplement, à la fin, il faut réduire nos émissions. Et la science ne pourra pas tout résoudre. Votre expression « spardra sur une jambe de bois » me paraît très, très, très adaptée.
Approprié, adapté. Vincent, 24 ans, de Gironde. Encore un appel de la Gironde. Bah oui, le livre se passant en Gironde. Bonjour Vincent.
Bonjour, vous m'entendez ?
Très bien. Vous êtes à l'antenne même.
Parfait.
Vous avez 24
très
ans.
Très bien.
Vous vous sentez très concerné par la catastrophe climatique qui pointe à l'horizon, hein ?
Ah oui, clairement, c'est un peu une angoisse des jeunes, hein. Monsieur Deandréis en parlait déjà, là clairement on n'est pas serein, après il y a plein de moyens, il ne faut pas perdre espoir parce que sinon il n'y a rien à l'horizon, pas de cap.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Étudiant en droit.
En droit, bon.
Ouais.
Étudiant en droit, oui.
Prépare l'examen d'avocat, c'est pas très très marrant.
Bon. Mais pour sauver nos océans, je considère qu'il faut s'attaquer à trois points, hein, c'est ce que vous dites. Quels sont ces trois points ?
Les trois points, c'est déjà la pêche intensive, parce qu'en fait, c'est à la base de tout. Premièrement, la pêche intensive, d'ailleurs, la France était censée donner l'exemple, mais finalement, dans les dernières commissions européennes, le groupe de notre président de la République n'a pas forcément été dans le sens que l'on aurait souhaité, étant donné qu'il y a des zones de protection de pêche qui étaient normalement interdites et qui n'ont pas forcément qui ont été levées. Hein, voilà, c'est un peu dommage.
Donc pêche intensive numéro 1, en numéro 2
Pêche intensive en numéro 2, en fait, ça pourrait être un véritable potentiel d'exploitation énergétique, la mer, et c'est déjà un peu le cas, mais pas suffisamment. Les hydroliennes, l'énergie des vagues, l'énergie des courants, tout ça, c'est des choses vraiment, vraiment importantes. Et puis après, en troisième point, ce qui est grave, c'est les plastiques. Quoi.
C'est les plastiques, ça, c'est le sujet. Hein. Ouais.
C'est
un
très
des sujets, mais c'est celui qui frappe vraiment, les plastiques. Et vous êtes optimiste ou pas en quelques mots pour l'avenir ? Vous dites ma génération va réussir à changer les choses, à faire dévier le navire, qui est difficile à manœuvrer.
Vous savez quoi là-dessus, franchement ? Je crois qu'il va y avoir deux étapes. La première, ça va être l'incitation, comme d'habitude. Et si ça marche pas, en fait, je pense qu'on pourra pas faire autrement que mettre en place des solutions de dictature, et ce sera grave pour les libertés, les libertés fondamentales, les libertés des gens au quotidien. Mais si on se bouge pas, en fait, sur les 3 ou 5 prochaines années, ensuite, ou même les 10, je ne sais pas, mais le moment où notre génération va arriver, on ne pourra pas faire autrement que faire mettre en place des dictatures.
Il faudra la méthode dure. Bon, espérons qu'on n'arrivera pas à ça. Merci
beaucoup. C'est le sujet de mon premier roman.
Merci beaucoup, Vincent. C'est le sujet de votre premier roman, Raphaël Deandréis. Et vous disiez, voilà, pourquoi pas, peut-être des quotas de droits à kilomètres parcourus en avion ou en voiture. Bon. En tout cas, c'est sur la table.
Ce qui est marquant, c'est l'angoisse et la sincérité qui transparaît de cet auditeur. Donc je pense que notre génération doit la prendre en compte.
Raphaël Deandréis, merci beaucoup d'être venu, auteur du livre « Mère » avec Bertil Scali. Merci d'être venu dans Europe Midi. Très bonne journée à vous. On se retrouve demain dès 5h55. Non, demain dès 5h55. Demain dès midi, évidemment, sur Europe 1 pour... une nouvelle émission Europe Midi. Tout de suite, c'est Carole Ferry pour La France Bouge. Bonjour Carole.
Bonjour Romain et merci et à demain.
À demain midi.